Je suis heureuse de vous voir. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quel jour c'est pour les Juifs ou quel jour, quelle fête va commencer ce soir? C'est le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des expiations qu'on appelle aussi donc Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et c'est la fête la plus sainte pour le peuple juif, pour nos frères juifs. Peut-être une coïncidence. Ça joue comme ça. Voilà, quant à nous, l'église de Villars, nous sommes sur le point d'adopter de nouveaux statuts, d'avoir de nouveaux conseils, d'élire de nouvelles personnes pour remplir les différentes tâches et les différentes responsabilités que nous avons. Nous en parlerons la semaine prochaine. Alors, il a semblé au conseil pastoral de transition que c'était le dernier moment pour jeter un bref coup d'œil derrière avant de tourner la page sur cette crise que nous avons vécue. C'est pas par esprit de jugement, c'est absolument pas non plus par culpabilité, mais c'est par humilité envers Dieu et dans la ferme espérance de le voir se réaliser ses promesses pour nous. Promesses de joie, promesses d'unité, promesses de paix. Et cette démarche correspond aussi à une demande de certains de nos jeunes frères et sœurs, ceux de la Dream Team, que je remercie. Non, attends. Voilà. J'y arriverai. Selon le guide de la lecture de la Bible, je suis tombée dessus le 15 septembre, s'humilier, ce n'est pas se dénigrer ou s'abaisser, c'est se placer honnêtement devant Dieu pour se laisser voir par lui, afin de se voir soi-même en vérité. Ainsi, soustrait à une activité débordante qui nous empêche parfois de voir la réalité en face, nous pourrons être amenés à reconnaître des péchés, à les confesser au Seigneur et à recevoir son pardon. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous se disent « Mais pourquoi s'humilier ? À cause de quoi ? Ça retourne le couteau dans la plaie. N'avons-nous pas été suffisamment blessés par cette crise ? Quand allez-vous enfin tourner la page ? Et puis, nous avons déjà fait cette démarche l'automne dernier. Tout ceci est juste. Mais la démarche que nous vous proposons, en suivant Esdras et Daniel, elle est différente. Ça n'est pas une démarche individuelle, comme nous avions fait l'année dernière, mais une démarche collective, communautaire. Ce que chacun de nous a pu faire ou ne pas faire pendant la crise relève de sa propre conscience. C'est ce que nous avions déposé. Par contre, en tant que communauté, l'Église de Villars, nous devons prendre conscience que notre Église a été désunie, qu'elle a été divisée et qu'elle s'est finalement partagée. Les uns sont restés et d'autres sont partis en claquant la porte. C'est un vrai divorce. Et dans l'Église de Dieu. Or, chacun de nous a une part de responsabilité. Attention, je dis bien responsabilité, pas culpabilité, dans ce gâchis. Parce que c'est notre Église. De même que nous nous sentons responsables de notre famille, de nos enfants, de notre équipe de travail. Oui, Je sais. Nous avons tous eu le sentiment d'avoir été des spectateurs impuissants et je dirais même ahuris devant ce qui s'est passé, bien plus que des acteurs de ce drame. Et pourtant, parce que nous sommes des hommes et des femmes, nous devons reconnaître que personne, aucun de nous n'est juste et n'a fait tout juste. Si nous voulons repartir d'un bon pied dans une nouvelle église, ou plutôt une église renouvelée, avec une vie d'église rafraîchie et joyeuse, sous le regard bienveillant de Dieu, nous devons prendre conscience de nos erreurs, même involontaires, et les assumer collectivement. Le psalmiste le disait, qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Et même Paul ajoute, « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Si nous reconnaissons cette responsabilité et que nous l'assumons collectivement, nous pourrons alors la déposer devant Dieu dans un esprit de contrition. La contrition, c'est la douleur d'avoir offensé Dieu. Je pense ici à notre division. Et nous savons, parce que l'Esprit nous en donne l'assurance, que Dieu nous pardonnera parce qu'il est non seulement juste, mais aussi rempli de bonté, de compassion et de grâce. C'est une démarche difficile, exigeante, rebutante pour certains d'entre nous. Nous le savons. Si vous pouvez vous y associer dès maintenant, tant mieux. Sinon, je le laisse devant vous, vous le méditerez, mais soyez assurés qu'en aucun cas il n'y aura de division entre nous de nouveau. Vous ne serez pas tenus à l'écart, quoi que vous pensiez, c'est l'amour du Christ qui nous unit en une Église, un amour bien vivant et partagé par nous tous. Pour nous aider dans cette démarche, nous pouvons ouvrir la Bible, bien sûr. Et j'ai cherché des prières appropriées. Il y en a deux qui m'ont frappé parmi toutes les prières de dirigeants. Moïse, Salomon. Et deux d'entre elles concernaient le retour d'exil. Quand les Juifs ont quitté Babylone pour pouvoir rentrer à Jérusalem. Une situation qui s'apparente un peu à la nôtre. Nous aussi, nous allons changer. Et Israël va vivre un nouveau départ. Je crois que j'avais mis une autre chose avant. Ouais. Bah. Ces deux prières ont ceci de particulier, ce qui m'a beaucoup touchée. Que toutes les deux passent très vite de « je » à « nous ». En d'autres termes, ils se fondent dans leur peuple, ils en deviennent les interprètes. Et c'est pour moi un modèle. Alors que pouvons-nous en retirer ? Daniel, comme il est dessiné là, est quelqu'un de très âgé. Il a été emmené à Babylone quand il était adolescent, il y a passé 60 ans au service du roi de Babylone, et jamais il n'a renié sa foi, jamais il a renoncé à prier, malgré les persécutions qu'il a pu subir. Sa foi, sa piété sont connues de tous. En lisant la prophétie de Jérémie, il réalise soudain que la fin de l'exil est à la porte et que les Juifs pourront réaliser leurs rêves, retourner à Jérusalem, rebâtir le temple. Alors dites-moi, que va-t-il faire ? Sauter de joie ? Préparer ses bagages ? Bah, pas vraiment. Seul dans sa chambre, cet homme juste et droit s'humilie devant Dieu. Il s'abîme dans une prière de contrition qui inclut tout le peuple d'Israël, passé et présent, car il craint de le voir retomber dans ses anciens travers d'infidélité. Alors il intercède, il prie avec ferveur pour son peuple, parce qu'il aime son peuple. En même temps qu'il confesse ses péchés et ceux d'Israël, il reconnaît la justice et la bonté de Dieu. Le châtiment était mérité, mais le pardon n'est pas loin. Non, merci. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom, à nos rois, nos chefs, nos ancêtres et à tout le peuple. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près, ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Vous voyez comment la contrition et l'espoir du pardon s'entremêlent. Puis il en appelle directement. À la compassion et à l'amour du Seigneur. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis sans tarder, par amour pour toi, mon Dieu. Et la réponse va arriver à l'instant même, mais je ne m'y étendrai pas. Il reçoit une vision, mais aussi la visite de l'archange Gabriel qui lui dit que dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et à la vision. C'est une des visions eschatologiques de Daniel qui suivra. Elle inclut la restauration de Jérusalem, l'arrivée du Messie et la fin des temps. Tout ce que les Juifs espéraient. Dans son amour pour son peuple, Daniel me frappe. Il me paraît être une préfiguration du Christ et aussi un modèle pour nous. Venons-en maintenant à Esdras. C'est un tout autre personnage. Mais d'abord, quelques mots. L'exil a pris fin une année à peu près après la prière de Daniel. Une quarantaine de mille Israélites retournent à Jérusalem avec Zorobabel et le grand prêtre Josué. Ils mettent une vingtaine d'années à reconstruire le temple. Puis 60 ans passent encore. Et alors, le scribe Esdras, qui est un prêtre, un écrivain, qui a des connaissances bibliques reconnues de tous et une grande sagesse, il obtient du roi d'être envoyé à Jérusalem avec quelques milliers, environ 4000 Israélites, pour offrir des sacrifices à Dieu et pour administrer la région. Il est dit dans la Bible, et c'est même prêté comme parole au roi de Babylone, que la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui. Or, à peine arrivé, Esdras apprend que les Israélites déjà installés ont commis une nouvelle infidélité. Je n'en parlerai pas parce que c'est très complexe. Ça ferait l'objet d'une autre prédication. Esdras est donc le chef politique et spirituel de son peuple. Comment va-t-il réagir? Nous pensons à Moïse qui s'était mis en colère. Non, pas Esdras. Il est tout simplement accablé. Certaines traductions disent même dévasté. Alors qu'il est sur le parvis du temple, donc dans le lieu le plus public qui soit, devant tout le peuple, il adopte une attitude de profonde humilité et tous les gestes du désespoir, déchirer les vêtements, arracher sa barbe. Et il prononce, quelques heures après, parce qu'il reste ainsi quelques heures, puis il prononce après une nouvelle prière où il oppose la honte qu'il ressent à la bonté du Dieu qui fait grâce et la crainte du châtiment à la confiance dans la justice de Dieu. Mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu. Oui, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a manifesté sa bonté en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple. Allons-nous recommencer à violer tes commandements? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste et nous voici devant toi. Et là aussi, après cette prière prononcée à haute voix, la réponse est immédiate. Mais elle vient sans doute d'un chef qui se trouvait à côté de lui, un homme craignant Dieu, comme disait précédemment le texte. Alors Shekania prit la parole, il dit à Esdras, « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. » Et alors Esdras, qui était prosterné, se releva. Il fit jurer au chef et à tout Israël qu'il ferait ce qui venait d'être dit, c'est-à-dire qu'il réaliserait une décision prise collectivement pour réparer la transgression. Et la suite du livre d'Esdras montre que cette démarche a été à la base d'un véritable réveil spirituel à Jérusalem et en Juda. Autrement dit, la repentance conduit au pardon qui s'accompagne d'une abondance de grâce. C'est aussi pour nous une immense espérance. Alors bon, quelle application en tirer? Dans les deux cas, la prière humble et fervente d'un dirigeant qui s'identifie à sa communauté conduit au pardon et à un nouveau départ de vie. On peut aussi le prendre pour nous. En fait, nous l'avons déjà expérimenté puisque ça fait une année et demie qu'il y a eu cette crise, mais que Villard a survécu et a continué à assumer un culte à la gloire de Dieu. Mais il nous paraissait, au conseil pastoral, qu'il qu'il était vital de purifier nos cœurs avant d'entrer dans une nouvelle vie d'Église, pour pouvoir accueillir dans la joie les promesses du Seigneur et renouveler notre adoration. Faut-il penser qu'une communauté est composée de simples chrétiens, les brebis du troupeau, et de super chrétiens qui, eux, peuvent et savent intercéder? Je ne pense pas, certainement pas. Intercéder pour autrui, pour sa communauté, son Église, pour l'Église universelle, appartient à tous les croyants, à vous, à moi, à chacun. Un pasteur, le conseil pastoral, un groupe de prière et d'intercession a la responsabilité d'encourager tous les membres de la communauté à prier, seul ou par groupe, petit groupe, mais aussi en communauté. Prière de supplication, de confession, de reconnaissance, d'adoration, d'intercession. La véritable communion fraternelle passe par la prière communautaire. Et il faudra que nous la retrouvions mieux, me semble-t-il. Parce qu'une Église est un être vivant. Alors il lui arrive inévitablement de commettre des offenses. Je prends le mot du Notre Père. Ces offenses peuvent blesser autrui et attrister Dieu. Mais l'Église peut toujours s'en repentir et corriger le tir. Et c'est la démarche que nous voulons faire aujourd'hui. Et la prière communautaire l'y conduit. Pour clore cette méditation, le conseil pastoral a désiré prier en bloc pour l'Église. Alors j'appelle ceux d'entre eux qui sont là, je crois que Michel est absente. Venez, nous commencerons par notre Père et puis nous dirons ensuite une petite phrase chacun qui nous paraît de circonstance. Et nous prions devant la croix.